le texte de ce dimanche, le carême, dans Marc, au chapitre 9. Et à partir du verset 2, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi. Élie leur apparut avec Moïse, ils s'entretenaient avec Jésus. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient ce qu'il disait, car ils étaient saisis de crainte. Une nuée vint les recouvrir. Il y eut une voix venant de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne d'autre que Jésus seul avec eux. Comme il descendait de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils observèrent cet ordre tout en se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter d'entre les morts. Le commentaire que j'ai lu dit que ce texte fait partie d'un ensemble. D'autres textes qui commencent, cet ensemble commence, chapitre 8, verset 27, quand Jésus demande à ses disciples, « Qui suis-je ?» au dire des hommes. Et cet ensemble se termine au chapitre 9, verset 13, donc après notre texte sur la transfiguration, où Jésus de nouveau interroge, non, cette fois-ci c'est les disciples qui interrogent Jésus au sujet de Élie. Parce que dans la pensée de l'époque, et encore aujourd'hui dans le judaïsme, Élie doit venir, puisqu'il n'est pas mort. Il est enlevé au ciel, il doit venir avant le Messie. Et alors les disciples disent à Jésus, mais il n'est pas venu Élie. Jésus dit, si, il est venu. C'est Jean-Baptiste et les hommes y ont fait tout ce qu'ils voulaient. Ça, c'est dans Marc 9, verset 13. Et bien de même, ils feront au Fils de l'homme tout ce qu'ils voudront. Alors, dans un ensemble de textes dans la Bible, il faut chercher le milieu. Car l'essentiel est au milieu. Le milieu de cet ensemble, c'est cet enseignement de Jésus en 8, verset 35, verset 34 et 35, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Quand on, nous parlons de Jésus aux gens, qu'est-ce que nous leur disons de Jésus? Le texte de la Transfiguration nous montre qu'on ne peut même pas parler de Jésus, de qui il est réellement. Alors on peut dire que c'est un homme, oui, absolument. Oui, oui. Mais quand Dieu montre qui est son Fils, aucun mot n'est capable d'exprimer qui est Jésus. On nous dit clairement que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Si la gloire de Jésus nous est révélée, elle nous est révélée, elle est au fond de chaque croyant. Nous ne pourrions plus nous exprimer, tellement nous serions subjugués par cette révélation, et nous voyons bien que dans l'Apocalypse, c'est une révélation encore de Jésus à l'apôtre Jean, et il emploie lui aussi ces mots qu'on voit ici dans la Transfiguration. Jésus était plus brillant que le soleil, son visage resplendissait, il est tombé comme mort à ses pieds, à peine il a vu comment est Jésus, il tombe comme mort à ses pieds parce que c'est le vivant. Oui, nous pouvons dire encore en tout cas que Jésus est le vivant aux gens. Mais pas lui seulement. Les vêtements qu'il a sur lui deviennent resplendissants, d'une blancheur qui ne peut pas se décrire. C'est-à-dire la matière dont il est recouvert. Les vêtements, ça c'est de la matière. C'est même plus seulement la chair de Jésus, mais aussi la matière dont il est recouvert, qui est transfigurée. Pour ça, nous avons, nous, dans les débats actuels sur l'écologie, une pensée tout à fait particulière. La nature sera transfigurée par Jésus lui-même, car en lui, tout a été créé et tout sera ressuscité en lui. Les choses se dégradent. L'être humain dégrade tout. Il crée aussi de belles choses dans la nature. Il ne faut pas exagérer, hein. Il faut considérer que les paysages magnifiques que nous avons, c'est la main de l'homme qui les a façonnés. Il n'y a plus de forêts primaires. Il y en a quelques-unes. Mais c'est pas par ici, en tout cas. Tout ici, même les paysages sont modelés par l'homme qui a domestiqué les animaux. On ne peut plus faire de marche arrière. L'animal, il est d'accord avec ça, qu'on le mange. Il faut dire ça aux végans actuels. Il y a eu une symbiose ensemble. Il y a eu une symbiose entre l'être animal et l'être humain. On a appris à vivre ensemble et on profite l'un de l'autre. Maintenant, il ne faut évidemment pas être cruel, ni continuer à dégrader la création, mais pour nous, la finalité de la création, c'est Jésus. En lui, tout va resplendir. Toute la création se retrouve dans la Jérusalem céleste, glorifiée. Ces vêtements de Jésus, brillants, d'une blancheur qui est indescriptible, vous l'avez revêtu, ce vêtement. Si vous avez été baptisé, normalement, vous avez été baptisé dans des vêtements blancs. On vous a donné un vêtement blanc quand vous êtes sorti de l'eau du baptême. En tout cas, c'est la tradition depuis 2000 ans. Peut-être que ce n'est pas appliqué dans certaines églises. Et quand vous ressusciterez, à Apocalypse, on voit ça au chapitre 3, au chapitre 4, au chapitre 7, on aura des vêtements blancs. Pourquoi ? Parce que c'est le vêtement, la couleur de Jésus transfiguré, la couleur de la résurrection Les anges étaient vêtus de vêtements blancs dans le tombeau de Jésus qui était vide. On nous dit comment blanchir nos vêtements dans Apocalypse 7, 14. Ils les ont blanchis. Qu'est-ce qu'il connaît la suite? Ils ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Alors ça prête un peu à sourire, cette expression, blanchir dans le sang. Mais dépassons cette petite moquerie intérieure que nous avons. Car là, on touche du doigt dans cette expression très bizarre, que c'est vraiment le sang de l'agneau qui purifie. C'est vraiment la mort de Jésus qui transfigure notre propre péché et notre propre condition d'être humain mortel. Elle est transfigurée. Transfigurée par la mort de Jésus. Alors, je vous ai dit au début de cette prédication que le centre de cet ensemble de textes, c'est quand Jésus dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. » Comment le texte de la transfiguration éclaire ce verset? Eh bien, on ne peut pas se renier soi-même si on apprend, si on n'en reçoit pas mieux. Et qu'est-ce qui est mieux que notre propre vie? Qu'est-ce qui est mieux que ma propre vie? Vous savez, j'ai toujours été intrigué par un verset d'un psaume, je crois que c'est le psaume 63, il est écrit que la grâce de Dieu vaut mieux que la vie. Il y a quelque chose qui vaut mieux que la vie. Pour beaucoup, et l'argent vaut mieux que la vie. On a vu, ça s'est vu, que des gens, quand on leur demande la bourse ou la vie, ils donnent leur vie. Ils préfèrent garder leur argent. Et ça s'est vu, hein. Il y a un bandit qui vient leur demander leur argent, ils préfèrent se faire tuer. Donc pour eux, de fait, l'argent est plus que la vie. C'est stupide, mais c'est comme ça. Pour nous, à cause de la parole de Dieu, nous savons que quelque chose est mieux que notre vie. C'est la grâce de Dieu. Et là, c'est nous qui sommes dans le Christ. Ça, c'est mieux que notre propre vie. Parce que Jésus ne dit pas seulement que nous devons nous renoncer, il dit aussi, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauve. Donc, je ne perds pas ma vie en la laissant totalement à Jésus. Au contraire, c'est la seule façon de la sauver. Alors pourquoi faut-il, nous aussi, passer par toute cette humiliation que Jésus a traversée et donc par la souffrance, par la torture et la mort au milieu du mépris le plus complet de la part des autres et de l'abandon des siens? La Pierre, Jacques et Jean, vous savez à quel moment Jésus demande qu'il soit avec lui, de nouveau. À quel moment Jésus redemande à Pierre, Jacques et Jean, restez avec moi, je vous en supplie. Gethsémani. Je vous en supplie, restez avec moi. Il touche le fond de la condition humaine. Où il ne peut plus gérer ce par quoi il va passer, l'abandon du Père et le péché des hommes
dans lequel il est entré. Et cette volonté humaine qui peut flancher, il dit à ses disciples, à Pierre, Jacques et Jean, la chair est faible. L'esprit, ça va l'esprit. L'esprit saint, lui, il est fort. Mais la chair, il en a une chair. Non, Jésus n'a pas la chair. Il avait la chair, lui. Il dit la chair est faible. Il le sent, lui. Il le sent à Gethsémani que sa chair est faible. Parce que c'est la chair que nous avons. Priez avec moi, je vous en supplie. Moi, je vais aller prier là-bas. Quand il revient, dorme. La solitude complète. Où il fallait choisir. Ou bien la volonté de son Père. Ou bien la sienne. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a lutté pour de lui-même dire oui à quelque chose qui pouvait refuser, qu'il était tenté de refuser. Nous comprenons. À travers le silence d'Abraham, qu'il était complètement déchiré en lui-même. Dans la traduction qui vous a été lue, il n'y a pas les petits détails qui font un émerveillement quand on les lit en hébreu. Il dit trois fois « Me voici Abraham ». Première fois, il dit à Dieu, quand Dieu l'appelle, et Dieu l'appelle pas, et toi là-bas, tu vas m'offrir ton fils en sacrifice. Non. Dieu l'appelle par son prénom. Abraham. Dieu a une relation personnelle avec lui. Ils se connaissent. Et ils savent s'appeler par leur nom. Dieu se met à genoux pour lui demander. Offre-moi ton fils. Et Abraham dit, me voici. Quand son fils lui dit, où est l'agneau? Son fils lui dit d'abord, mon père. Et Abraham dit, me voici. Il dit, me voici à son fils. Et puis, quand l'ange, c'est presque Dieu lui-même, donc l'ange l'appelle au dernier moment, Abraham. Et deux fois, Abraham. Cet Abraham répond, me voici une troisième fois. Il est là, totalement pour Dieu et en même temps totalement pour son fils. Ne croyez pas qu'il a tout d'un coup transformé son amour en haine. Et ces deux solidarités, il les a vécues. Et qui pouvait résoudre ce conflit, ce déchirement, si ce n'est le Seigneur Dieu lui-même, à qui il est tellement semblable dans ce geste, parce que le Seigneur Dieu, Père, il n'a pas épargné son propre fils, ça nous l'avons entendu dans Romains 8, Dieu n'a pas gardé son fils près de chez lui. Il lui a fait traverser la condition humaine, il l'a lâché entre les mains des hommes. Son fils, Dieu, l'a lâché entre les mains des hommes. Et est-ce que Dieu avait encore en réserve après quelque chose pour lui-même? Dieu avait-il encore en réserve pour lui-même quelque chose une fois qu'il a donné son fils aux hommes? Le verbe épargner. Écoutez bien ce terme que Paul utilise. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Le mot épargne évoque quelque chose qu'on laisse sur le compte en banque. Beaucoup de gens ont une épargne. Il faut savoir épargner. Pour, dans les mauvais jours, quand il y a une grosse dépense, avoir suffisamment pour payer. Mais Dieu n'a pas épargné son fils. Maintenant, son fils a été donné, livré aux hommes. Il a donc traversé cette condition humaine dans laquelle nous sommes. Et pourquoi leur faut-il aussi encore souffrir? Parce que le monde est ce qu'il est. Le monde est ce qu'il est. Il a crucifié Jésus. Et nous en faisons partie. Qui de nous n'a pas crucifié Jésus? Il y avait un musulman de Gaza qui voulait passer en Israël. C'était un musulman qui avait rencontré Jésus, qui évangélisait à Gaza. Le soldat israélien lui a dit « Ah, t'es chrétien, toi ? Alors, qui a tué Jésus ?» Alors, parce que les Juifs, ils entendent, ils ont entendu pendant 2000 ans qu'on leur a dit que c'est eux qui ont crucifié Jésus. Ça a été dit aux Juifs pendant 2000 ans. Le jour du Vendredi Saint, on tuait des Juifs, ici en France. Il faut savoir ça. Ce musulman devenu croyant en Jésus, il a demandé au Saint-Esprit de lui donner la réponse, il a dit à ce soldat israélien, Jésus a été crucifié à cause de mes péchés. C'est la condition humaine que Jésus a assumée. Et c'est cette même condition humaine dans laquelle nous sommes toujours et dont nous sommes entourés. Ce n'est pas parce que nous annonçons quelqu'un qui aime l'humanité qu'on va vous aimer. C'est de la naïveté d'évangéliser en croyant que tout le monde sera content. Aujourd'hui, l'évangile est annoncé au cœur de l'islamisme, au cœur des terroristes musulmans. Il y a du témoignage à Jésus-Christ. Et les gens le payent. Ils laissent leur vie entre les mains de Jésus parce qu'ils obéissent à la volonté du Père Céleste qui veut ces islamistes pour lui. Il les veut. Et Jésus est mort pour eux aussi. Il n'y a pas d'être humain qu'on peut exclure du salut pour lequel Jésus a tant lutté et souffert. Personne ne peut en être exclu. Voilà donc, je voulais dire ça parce que quand Jésus nous dit si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même. Ce n'est pas un tyran qui nous demande ça. Ce n'est pas un gourou. Tous les gourous disent ça. Tu viens dans mon groupe, tu renonces à ta volonté personnelle. Tu renonces à ton discernement, à ton intelligence. Ici, en Puy-de-Dôme, il y a, je crois que c'est le seul gourou qui existe encore, je ne sais pas quel âge il doit avoir, parce que ça fait un moment, le gourou qui a fondé la secte des Raéliens. On voyait il y a quelque temps encore des affiches, tout ça, dans Thiers. Les Raéliens, le gourou, il est d'ici, du Puy-de-Dôme. Très intéressant, là, quand vous entrez dans cette secte, vous renoncez même à votre femme. Le gourou a toutes les femmes de la secte. Hein. Mais il y a des gens intelligents qui rentrent dedans. Il y a des gens qui ont des diplômes universitaires qui rentrent dans les sectes. Quand on étudie le phénomène des sectes, on voit ça. Et soit dit en passant, ceux qui ont décidé la solution finale avec Hitler, c'est-à-dire tuer tous les Juifs en Europe. Parmi eux, il y en avait 5 qui avaient un doctorat d'université. 5 avaient un doctorat d'université. pour décider de l'extermination des Juifs en Europe. Donc nous sommes appelés à témoigner de l'Évangile. Si nous connaissons Jésus, et plus nous le connaissons, plus nous aurons envie de parler de Jésus à ceux qui n'en veulent pas. C'est pas parce qu'ils n'en veulent pas qu'il ne faut pas en parler. Alors, le Saint-Esprit nous inspirera. À quel moment et comment? Et peut-être ce sera au prix de notre vie. C'est pas innocent de témoigner de Jésus. Il y a un prix à payer. Jésus ne nous l'a jamais caché. Et donc, lui, s'il nous demande notre vie, c'est pas par plaisir sadique, comme les gourous qui ont une emprise et qui annihilent votre volonté. C'est justement l'exact inverse. Jésus respecte tellement la volonté de chaque être humain. De chaque être humain qui veut s'opposer à l'Évangile, qui va respecter cette volonté de s'opposer. Mais il va quand même lui témoigner. C'est parce que Jésus respecte très profondément notre liberté qui nous met devant le choix de témoigner ou non de l'Évangile, y compris au prix de la vie. Il y a 340 millions de chrétiens qui sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens. Est-ce que c'est un phénomène marginal? Non. Avec un tel chiffre, non. Puis il y en a qui payent de leur vie le témoignage à la vérité. Témoignent pas directement de Jésus, mais prennent une position pour qui est la vérité. Ou qui est la justice. Vous voyez, la meilleure preuve de l'existence de Dieu, c'est que Dieu n'a pas donné de preuve. Parce que s'il avait donné une preuve irrésistible, il n'y aurait plus de liberté. Mais pour moi, il y a 340 millions de preuves, au moins 340 millions de preuves dans le monde de l'existence de Dieu. C'est ceux qui continuent à être chrétiens, malgré le danger de mort. Parce que, au fond d'eux, il y a cette révélation de la gloire de Jésus, en qui notre vie est sauvée. Amen.